Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI. Plein d'actualités aujourd'hui et nous allons commencer par Monaco. Monaco en Ligue Europa, quelle déception pour ces monégasques qui ont manqué de peu la Ligue des Champions hier soir après un presque très bon match. Les joueurs peuvent s'en vouloir et c'est le Shakhtar Donetsk qui est lui au rendez-vous de la Ligue des Champions comme d'habitude. La vie en bleu après un euro raté. Ce sera dès la semaine prochaine contre la Bosnie pour une équipe de France renouvelée sous la houlette toujours de Didier Deschamps. Ils sont quatre nouveaux bleus au rendez-vous et Thomas de Saint-Léger nous en dira plus. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous étiez à la Fédération française et nous profiterons de ce que vous avez écouté en direct. Des sanctions, mais quelles sanctions ? La Ligue de football professionnel a publié hier ses premières décisions, un peu loin des attentes suscitées par la chaotique soirée de championnat Nice-OM. La LFP se donne jusqu'au 8 septembre. Invité dans ce studio aujourd'hui.
La liste des consultants de l'émission Radio Foot International, bon, avec Bruno Constant, Nabil Djellit.
C'est qui la voix ?
David Lortolari.
Est-ce que vous appréciez?
C'est un honneur. C'est
ça,
c'est...
Ah ben ça, je vous le dis pas. C'est notre secret.
C'est Didier.
C'est un peu comme dans K2000 avec David Hasselhoff. On sait pas qui c'est.
C'est le secret de Radio France International.
C'est Didier Deschamps, tu l'as pas reconnu? Cette pointe d'accent?
Ah ouais, c'est Thomas de Saint-Léger, il a fait un Thomas son à la fin.
Oui, je reviens du sud-ouest de la France, donc j'ai pris un petit accent.
Non, mais vous êtes allé faire un son à la fin de la conférence.
Oui, avec Didier Deschamps, évidemment.
Avec Didier Deschamps. Mais non, c'est notre grand, grand Pierre Guérin, qui est un imitateur hors pair.
Bah franchement, il s'en sort super bien.
Ouais, il le fait souvent, d'ailleurs, dans le bureau. Laurent Salerno est à la réalisation, c'est le complice de Pierre Guérin. David Finzel est là, bien sûr, fidèlement au poste.
Je suis à deux doigts de vous demander de le réécouter.
Attention, Nabil, pas sur le titulaire.
Alors on le remet.
La liste des consultants de l'émission Radio Foot International avec Bruno Constant, Nabil Djellit.
C'est énorme.
David Lortolari.
Quelle trouvaille.
Allez, Radio Foot, c'est parti.
Le doublé signé Wissam Ben Yedder.
Voilà l'arrivée de Modric là, qui rentre dans la surface de réparation. Oh, Ruben Aguilar qui trompe son propre gardien. Eh bien, c'est le Shakhtar qui repasse devant. Oh, la joie du Shakhtar qui revient de très, très, très loin.
Quelle déception pour Monaco, décidé à arracher sa qualification en Ligue des Champions sur le terrain adverse du club ukrainien hier. L'équipe de Niko Kovac a entrevu la Ligue des Champions durant de longues minutes en ouvrant le score, en rattrapant son retard. Les Monégasques étaient qualifiés à la mi-temps. Et puis, ils ont été rattrapés en deuxième mi-temps et surtout durant les prolongations par ce malheureux but contre son camp d'Aguilar. Niko Kovac, l'entraîneur, avait du mal à réaliser à la fin du match.
Lorsque je regarde l'ensemble des deux rencontres, je constate que l'on a dominé 190 minutes, excepté les 20 premières à domicile, où ça n'était pas le Monaco que je connais. On a vu notre vrai visage lors de ce match retour. Le football est parfois cruel, c'est dur, mais la vie continue. Et je reste bien sûr très fier de mon équipe.
Un bon match, peut-être, David Lortolari, un bon match, mais trop d'occasions manquées et finalement les Monégasques mal payés.
Oui, je crois que c'est une clé forcément de particulièrement du match du soir, mais sur les deux matchs aussi. C'est-à-dire que il y a ce scénario avec déjà 2-0, avec un élan, avec plusieurs occasions. On a beaucoup focalisé sur Ben Yedder, bien sûr, mais c'est pas la question d'un individu. C'est effectivement à ce moment-là que on imagine que Monaco aurait dû, que Monaco devait. Ouais.
inscrire le troisième but.
Oui, parce que l'équipe adverse aurait lâché, aurait cédé sans doute définitivement. Il y a une petite chose moi qui me vient à l'esprit là, cette nouvelle règle, enfin l'adaptation
de la
règle. Non mais c'est simplement.
Non
que...
mais vous avez raison.
Ben oui, parce que le Shakhtar ne joue pas à Donetsk et donc pour ce match-là c'était justifié parce que qu'il n'y ait pas la règle du but à l'extérieur puisqu'il jouait à Kharkiv.
Oui,
et...
mais ça fait longtemps.
C'est une petite anecdote.
Eux, à cause de la guerre, ils ont beaucoup bougé et beaucoup changé.
C'était
de stade,
pas une nouveauté pour eux.
Ça fait très longtemps qu'ils jouent à Kharkiv. Thomas Saint-Léger, vous qui avez regardé aussi Monaco avec un œil très intéressé, passionné par ce club. C'est cruel.
Oui, c'est cruel. Je lisais une interview tout à l'heure de l'entraîneur du Shakhtar, l'Italien De Zerbi. Il dit que son équipe a eu plus de cœur et plus de un autre mot qui commence par C. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je trouve qu'au contraire, sur le match retour, Monaco a eu du cœur, de la personnalité. Je pense évidemment à la paire du milieu de terrain Tchouaméni et Fofana. Ce qui leur a manqué, mais ça, c'était un petit peu prévisible contre une équipe qui elle est rompue aux joutes européennes, c'est plutôt du vice. Il y a par exemple deux situations qui auraient pu amener ou bien des coups francs dangereux ou bien des pénaltys. Et là, les joueurs n'ont pas forcément bien joué le coup. Et puis, quelques petits détails, surtout sur la fin de rencontre. Évidemment, être plus tueur aussi, les occasions de Beigné d'air, de Folland, des contres à la fin avec le jeune Isidore. Voilà, il a manqué tout un ensemble de petites choses. Mais je reste assez optimiste pour cette équipe par rapport à la Ligue Europa. Je pense qu'ils ont appris pas mal. Sur cette pré-campagne, on va dire, de Ligue des Champions. Et comme je le disais, c'est une équipe qui a du talent et de la personnalité. Et on va les suivre attentivement, je pense, en Ligue Europa.
Bruno Constant, est-ce qu'aussi il y avait un peut-être problème d'état physique général? Parce qu'on a vu qu'à la fin, ils étaient peut-être un peu plus fatigués que les joueurs du club ukrainien. Or, on sait que eux, leur championnat était en route, était en route même avant l'Euro, ce qui n'était pas du tout le cas des Monégasques, hein, qui commencent à peine et qui ont plus mal commencé le championnat de Ligue 1.
Je sais pas, je suis pas sûr parce que ils font un match quand même fantastique.
Oui.
C'est quand même à souligner voir un club français en dehors du PSG qui se comporte avec autant d'autorité sur le pelouse à l'extérieur. Ils ont fait un match vraiment phénoménal. Ils ont eu une débauche d'énergie sur la première période qui était exceptionnelle. Le pressing qu'ils font, l'intensité, la discipline tactique était vraiment mémorable. Et ils peuvent d'ailleurs être à la mi-temps à 3-0 et presque plier le match. Il y a eu un coup de fatigue pour moi vraiment en début de seconde période. Et après, petit à petit, ils ont repris l'ascendant psychologique et physique sur le Shakhtar. Donc physiquement, pour moi, je les ai trouvés bien. C'est juste qu'ils craquent sur un coup de malchance quand même. Il y a ce but contre son camp, mais quand on fait les deux matchs, le décompte des deux matchs, ouais. Il y a eu 30 minutes du Shakhtar à l'aller à Louis II qui a été phénoménal. Mais après, ils se sont éteints et Monaco a dominé. Et sur ce match, Monaco a dominé trois quarts du match.
Vous êtes d'accord
avec c'est vraiment pour le coup un manque de réussite. Et je suis d'accord sur le manque de vice. Peut-être avec un peu plus de vis, ils auraient pu gérer cet avantage de début.
Ouais, c'est une équipe de joueurs jeunes aussi, hein, dans l'ensemble.
Bien sûr, très jeune.
La presse, j'ai regardé un peu attentivement ce qu'on disait aujourd'hui en Ukraine, et ils sont beaucoup plus objectifs que l'entraîneur, visiblement, parce qu'ils ont parlé d'une équipe du Shakhtar beaucoup plus faible que son adversaire Monaco.
Et baladé,
d'une énorme chance à l'arrivée. Ouais. Donc il y a plus d'objectivité vis-à-vis des Ukrainiens qui ont constaté que leur défense était faible, que l'équipe en général était moins forte que Monaco, et que donc la qualification était chanceuse.
Nabil, c'est peut-être aussi au match aller, parce que alors Louis II, on connaît, c'est toujours une ambiance particulière, et là hier on entendait un public qui poussait son équipe, mais ils avaient perdu au match aller. Alors on va y venir à cette histoire du but à l'extérieur, mais malgré tout ce n'était qu'un but que Monaco avait encaissé, mais quand même ce but.
Bah, ce match, vous avez raison,
psychologiquement on s'est dit passeront pas.
Et la qualification elle coûte cher et elle a été en grande partie perdu sur ce match aller où Kovac a aussi pas joué au prestidigitateur, mais il a quand même changé sa tactique. Il est revenu sur le match retour à ce qu'il avait fait la saison dernière en deuxième partie.
Exactement.
De saison.
Alors que la première partie nous a fait une Guardiola,
c'est-à-dire que trop de tactique tue la tactique. Il a touché à certains équilibres de son groupe qui avait réussi la saison dernière. Cette courroie de transmission Tchouaméni Fofana avait été changée. Jean-Lucas qui arrive, bon, qui a des qualités, mais bon, qui se retrouve bombardé. Directement titulaire. Le choix du gardien également, le compte qui est parti en catastrophe, comme vous le savez, du côté de l'Atlético, bah, ça n'a pas été concluant. C'est aussi des détails que moi, je porte à la charge de l'AS Monaco, du directeur sportif, et de l'entraîneur. Des joueurs aussi qui ont sous-performé en attaque au match aller. Alors tout le monde se focalise sur Ben Yedder. Enfin, Ben Yedder, hier, c'est vrai, t'as raison, il peut tuer le match, mais il met quand même encore une fois un doublé.
Un doublé, oui.
Volant, bah, et là, il est un peu aux abonnés absents, il sort jamais, lui. De toute façon, bon, pas bon, il sort jamais.
Il fait une grosse débauche d'énergie. Hein. Il fait. Bah, oui, mais justement, période, peut-être. Il est capital dans le pressing, dans le déplacement.
Bah, il finit peut-être par manquer un peu de carburant aussi au bout d'un moment, mais
un
après,
peu
je.
De jus, ouais, un peu
voilà,
lucidité.
Donc tout ça réunit. Pour moi, ça, alors, ce qui s'est passé, ça va laisser des traces. Gros échec pour l'AS Monaco. Je pense que ça peut fissurer en partie le groupe, parce que je sais qu'il y a eu des tensions. Voilà, tout simplement. Au sein du vestiaire, il faudra voir comment Monaco se remobilise. Ça sera le travail du manager qui tenait parfaitement son groupe en deuxième partie de saison l'année dernière. C'était la meilleure équipe de France, disons-le clairement.
Écoutez, la saison
et
dernière.
Et là, on a l'impression que.
Non mais tu
Pierre Guérin, l'année dernière, Pierre Guérin, il est allé regarder sur les statistiques parce qu'on se souvenait, c'était l'équipe la plus performante du Big 5 européen, c'est-à-dire de tous les championnats. Meilleur, déjà, meilleur troisième club français de l'histoire de la Ligue 1. Ils avaient terminé troisième avec 78 points. Ensuite, ils avaient enregistré que 3 défaites sur les dernières 28 rencontres de la saison. Enfin,
ils avaient commencé diesel aussi. C'est peut-être une question de préparation. La préparation Kovac, elle a l'air quand même relativement dure. Moi, je suis pas trop d'accord avec Nabil. C'est vrai qu'il y a ce risque que la non-qualification fissure le vestiaire, mais je pense que sur la performance, ils ont compris qu'ils pouvaient reproduire les matchs de l'an dernier. On est au début de saison, certes la Ligue 1 est mal embarquée, certes la Ligue Europa c'est pas le même prestige, mais il y a des choses à jouer et je pense que ça peut les réunir aussi pour
s'y ça sera en tout cas le boss le boulot du staff de Kovac et tout. La séquence qui arrive, elle va être extrêmement importante parce que encore une fois cette équipe du Shakhtar, vous avez raison, elle était prenable.
Elle était Shakhtar. Hein.
Ouais, oui, favorite, oui et non, parce que c'est une équipe qui a été renouvelée en grande partie. C'est pas celle qui bat le Real de Madrid la saison dernière sur une double confrontation.
C'est les
Brésiliens
énorme.
Saison 5 ou 6. Ils ont ramené une nouvelle flopée de joueurs brésiliens plutôt talentueux qu'on va peut-être retrouver ensuite aux quatre coins de l'Europe. Mais sur le match d'hier, on voyait bien que la qualification était accessible.
Ce qui peut fissurer le projet, c'est que s'il y a des joueurs, des très bons joueurs qui s'en vont, comme Tchouaméni par exemple, qui a crevé l'écran, dont on parle beaucoup en Angleterre du côté de Chelsea, c'est ça qui peut fissurer effectivement le projet.
Oui, peut-être que Ben Yedder, il va en avoir aussi marre de sortir, alors que c'est le leader offensif, de se faire remplacer régulièrement. Il n'a pas dit grand-chose l'année dernière, mais d'après moi, au bout d'un moment, ça va commencer à le gonfler.
Ouais.
Mais je dis ça, je dis rien. Hein.
Vous observez. Thomas, est-ce que maintenant, quel est l'objectif? Parce que on n'est pas sûr que la Ligue Europa, ça soit quand même l'objectif. Est-ce que ça sera plus se recentrer sur la Ligue 1 et terminer deuxième, quoi?
Bah, je ne sais pas si c'est très intéressant de terminer deuxième.
S'ils avaient été deuxième, ils seraient en Ligue.
Oui,
mais en Ligue des Champions cette saison.
Évidemment, c'est un objectif, mais je pense vraiment que la Ligue Europa, comme d'ailleurs Lyon ou Marseille, va être un objectif pour Monaco cette année. Et de toute façon, la non-qualification en Ligue des Champions, même si elle est hyper décevante, elle arrive à un moment du projet qui n'est pas non plus très avancé. Oleg Petrov, le président, l'avait dit d'ailleurs juste avant le début de saison. Il a dit si on n'arrive pas en Ligue des Champions cette saison, ce ne sera pas la catastrophe industrielle. C'est vrai que c'est embêtant.
Surtout que c'est un club qui a besoin de, même si ça ne dit pas son nom, et qui a un peu modifié son logiciel structurel, c'est quand même un club qui met en vitrine ses joueurs pour ensuite faire des plus-values. Mais quelle plus belle vitrine, encore une fois. Monaco, quand ils ont fait de l'argent ces dernières années, là, sur les 10 dernières années, c'est parce que, ou surtout les 5 dernières années, c'est parce qu'ils ont fait
vous
des parcours.
Mbappé, c'est ça?
Voilà, Mbappé, Fabinho, Bakayoko, Moutinho, etc. Ouais. C'est parce qu'ils ont Abdennour, qu'ils ont vendu aussi à Valence 32 millions d'euros. C'est parce qu'ils ont flambé en Ligue des Champions. Alors, t'as raison, Thomas, parce que tu peux faire un très bon parcours aussi en Europa League. Dès que tu rentres dans la dernière séquence, ça devient extrêmement intéressant parce que tu rencontres des clubs hyper compétitifs à l'échelle européenne et c'est quasiment des matchs de Ligue des Champions parce que quand tu croises l'Inter ou Manchester United,
la
saison dernière c'était un peu le casting. C'est quand même des matchs de très haut niveau. Mais moi je pense que c'est quand même un contre-coup assez important. Et en championnat, ils sont encore en convalescence. On les avait vus peut-être
trop beaux. 19e, mais bon, il y a eu 3 matchs. Donc,
Il va falloir griller Joker parce que déjà pour matcher Paris Saint-Germain, c'est quasiment terminé.
Non mais pour le podium, ça va jouer avec Lyon, ça va jouer avec Marseille, donc ils sont encore dans les clous.
Lille, peut-être.
Pour moi, on peut pas remettre tout le projet en cause. Moi, je trouve au contraire que ça le valide quelque part, parce que l'année dernière, c'était du bonus. On les imaginait jamais sur le podium en tout début de saison, surtout après la saison qu'ils avaient faite l'année d'avant. Moi, je trouve qu'au contraire,
c'est les prochains jours de mercato.
Il y a une progression, il y a surtout une progression avec ce que met en place Kovac. Et franchement, faut le souligner, c'est beau à voir, c'est du beau jeu, et il y a du talent dans cet effectif, même s'ils perdent un ou deux éléments. Moi, je pense qu'ils seront là. Golovin fait un match encore magnifique. Il y a du beau monde quand même dans cet effectif. C'est plutôt intéressant, moi, je trouve, ce qu'ils ont fait.
La question du gardien, quand même. J'espère qu'il va retrouver
La grosse erreur et c'est ce qui fait pencher le.
Espérons qu'il retrouve. Alors, il ne faut pas l'enterrer, évidemment. Il est peut-être en manque de confiance. Il y a eu des secousses. Il arrivait dans un club où il y avait déjà un gardien numéro 1 installé. Donc, il n'est peut-être pas arrivé dans les meilleures conditions. Mais il va falloir.
Il ne jouait pas depuis. Je parle sous le contrôle de David. Il ne jouait presque pas depuis 2 ans.
Qu'est-ce qu'il vaut, ce gardien, David?
C'est un très bon Nummel. Il est bien évident que depuis son départ de Schalke, il a très peu joué. La confiance d'un gardien qui joue pas, elle est.
À moins qu'il
soit dans un club pour être le numéro 2, ce qui n'était pas son cas parce qu'il a l'envergure d'un gardien de l'équipe nationale. Si on est numéro 2 et qu'on vient pour être numéro 2, comme Ulreich au Bayern actuellement, il n'y a pas de problème. Quand on vient pour être numéro 1 et qu'on joue 3 matchs dans la saison, forcément la confiance baisse.
J'ai pas l'impression que ce soit la confiance son problème quand même. J'ai plutôt l'impression qu'il en a plus que pas assez.
Pour moi, c'est un joueur, un gardien qui a un potentiel énorme.
Ah bah, c'est intéressant.
On l'annonce comme le successeur de Manuel Neuer.
Voilà, c'est le résumé.
Après, on l'a pas vu faire un arrêt pour l'instant.
Hier soir, c'est décisif puisque en face, Piatov a empêché.
Ça se trouve, il va devenir exceptionnel dans 2-3 mois.
Bien sûr.
Et il a perdu ses repères. Ce qui est intéressant dans ce que dit David, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et un gardien qui joue pas pendant longtemps, qu'on le veuille ou non, les repères, il les perd aussi de manière assez importante.
Puis il a pas forcément le caractère de quelqu'un qui vient puis qui va marcher sur la table tout de suite. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus réservé. Donc je pense que sur le moyen terme, on verra vraiment ce que peut valoir ce joueur.
David, vous vouliez revenir, c'est juste sur ce détail maintenant, mais qui en plus nous sommes à quelques minutes de savoir ce qui va se passer en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce but à l'extérieur, donc là il comptait plus double pour le Shakhtar quand ils ont marqué à Monaco, mais au match retour c'est pareil, là on a Monaco qui marque 2 buts d'entrée, ils mènent 2-0 à la mi-temps. Est-ce que selon vous, si il y avait eu la même règle qu'autrefois, ça aurait changé le résultat?
Oui, objectivement, parce que bon, déjà, sur le 0-1 de l'aller à Monaco, le visiteur marque un but. Là, le visiteur, qui était Monaco en Ukraine, marque 2 buts. Donc, à la fin du temps réglementaire, Monaco aurait été qualifié, automatiquement. Sans prolongation. Il y a 2-1. Vous gagnez 2-1. Vous avez perdu 0-1 au match aller. Vous marquez 2 buts. Vous êtes qualifié. Donc là, déjà, objectivement, ça change. Après, derrière, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce match-là, ce contexte en Ukraine, c'est un peu amusant. C'est pas le bon terme, évidemment, parce que le contexte n'est pas amusant du tout. Mais le fait qu'il n'y ait pas de but à l'extérieur sur une confrontation qui concerne ce club-là me paraît moins gênant que pour le reste. Par ailleurs, pour les matchs en général, je trouve que c'est une règle qui était tellement bien installée, qui avait créé tellement de rebondissements, les doubles confrontations, l'histoire des coupes d'Europe en général, c'était aussi beaucoup sur ça. Et l'enlever aujourd'hui, je suis un farouche adversaire
avec toi,
de ça.
Je suis comme toi, j'étais contre le changement de la règle. Mais faut reconnaître que là, la règle a changé. Et le spectacle était là. C'était un match magnifique. Enfin, on aurait dit un quart de finale de Ligue des Champions. C'était exceptionnel.
Mais pour rester objectif,
je suis d'accord sur la règle.
Changer
la règle change aussi le comportement des équipes et des entraîneurs.
Sans aucun doute.
Peut-être que Monaco n'aurait pas joué comme ça. Peut-être que le Shakhtar n'aurait pas joué comme ça à 2-0.
Mais alors, il y a un truc,
faudra suivre en fait maintenant. Là,
au bout d'une saison. Saison, ce que ça donne.
Il y a quand même un risque majeur pour les joueurs, c'est que ça entraîne plus de prolongations. Verra si statistiquement ce sera le cas.
Comme dirait Patrick Juillard, 7 prolongations sur 10, ici passerait. C'est fini au tir au but. En termes de stats.
Donc là, il y a eu du spectacle hier soir, c'était un one shot, c'était réussi. On va voir sur la longueur.
On verra si ça porte chance ou pas au club. En tout cas, c'est donc le Shakhtar Donetsk qui, une fois de plus, participe d'ici peu au tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors, ils seront dans le chapeau 4. Monaco aurait été d'ailleurs dans ce chapeau s'ils avaient été au tirage au sort. Tirage au sort qui se terminera après la fin de Radio Foot International. Et donc, nous y reviendrons dans la deuxième édition de l'émission. On continue.
Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout, Moussa Diaby, Olivier Giroud.
Une liste avec des bleus tout neufs et des bleus absents, donc vous l'avez entendu. Le sélectionneur Didier Deschamps a un peu taillé dans le vif en convoquant sa nouvelle équipe de France. Le groupe qui a déraillé pendant l'Euro n'est plus tout à fait le même. Alors, pour beaucoup, il y a des blessures. On va y venir, hein, Thomas Tselger, mais pas seulement. Ou alors, peut-être des blessures à l'âme, des blessures intérieures. Et ça, nous y viendrons aussi. Mais il y a 3 matchs de qualification pour être présent au Qatar dès ce mois de septembre. Et c'est important. Alors, les petits nouveaux, vous l'avez entendu, un latéral gauche, 2 milieux et un attaquant, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Vertu et Moussa Diaby. Que dire? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on s'attendait hier pendant le match de Monaco, on entendait des choses en disant « Oui, Tchouaméni, ça va sûrement marcher maintenant. » Thomas?
C'est que des joueurs dont on entendait parler depuis longtemps dans le groupe ou en périphérie du...
Qui était au seuil de l'équipe de France.
C'était le groupe élargi dont on dit...
C'était le groupe élargi... C'est un peu surprenant, même si pareil, lui, on entendrait parler depuis longtemps, de voir un joueur de 28 ans arriver, Jordan Veretout. En général, il les prend un peu plus jeunes.
Oui.
Didier Deschamps, Tchouaméni, je pense que c'était une évidence pour ceux qui suivent la Ligue 1 depuis l'an dernier. Théo Hernandez, pareil, qui joue
Matteo Tchoffi bon nous vendait Théo Hernandez depuis longtemps.
Bon match au Milan AC. Et puis Moussa Diaby, qui a fait, peut-être qu'on en parle moins, mais une super saison l'an dernier avec le Bayer Leverkusen, qui est reparti sur les mêmes bases cette année. C'est que des choix plutôt logiques par rapport, d'une part, aux joueurs qui sont écartés. Je pense à Moussa Sissoko et Olivier Giroud, on va en reparler, je pense, mais aussi aux joueurs qui sont blessés, parce qu'il y en a une pelletée. Hein. Il y a Dembélé, Rabiot,
Pavard,
évidemment.
Et Lucas Hernandez.
Dembélé est blessé, c'est pareil. Hein.
Ouais.
Ouais, on sait. Ouais, parfois c'est Coman et là il est là. Ces bleus sont donc appelés, selon vous, à rester ou appeler parce que pour l'instant il y a les blessés. Par exemple, Théo Hernandez, on sait qu'il est en concurrence directe avec son frère sur le même poste.
Il vient de se faire opérer du genou. Son frère peut aussi jouer dans l'axe, donc oui, mais ils sont plus ou moins en concurrence directe. Didier Deschamps, il l'a dit d'ailleurs pendant cette conférence de presse, il les appelle et il est là un petit peu pour les tester. Il leur a dit c'est bien, vous allez découvrir. C'était pour nous le message, mais c'était évidemment plus tard pour eux. Et ils vont découvrir ce groupe. Maintenant, à eux de montrer qu'ils ont leur place et qu'ils vont pouvoir rester dans ce groupe. Il a dit, voilà, il utilisait ce mot de rester. Vous êtes là, c'est bien, mais maintenant essayez de prouver pour rester. Ils auront 3 matchs, c'est bien, hein, parce que c'est un rassemblement assez court, mais avec 3 matchs, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des rotations et l'occasion de se montrer.
Nabil, parfois c'est cruel d'être appelé pour la première fois. On pense à certains joueurs qui sont venus une ou deux fois, enfin en tout cas sur un rassemblement, et puis qui ont disparu ou qui n'ont pas pu se mettre en valeur.
Non, mais vous avez raison. Déjà, bon, il faut le rappeler, on est dans une sélection nationale avec une densité de joueurs incroyable. L'équipe de France, en fait, il y a peu d'élus hein, quand on regarde. Il y a beaucoup de joueurs qui restent en périphérie, mais qui pourraient très bien être appelés dans d'autres sélections nationales de très haut niveau. Il y a une charge émotionnelle qui est différente. Quand on porte le maillot d'un pays, beaucoup de joueurs le racontent, notamment des joueurs qui ont joué dans des grands clubs. Récemment, je pense par exemple à Dayot Upamecano, que David connaît bien, très performant avec Leipzig, il signe au Bayern.
Qui fait partie de ces joueurs qui ont eu des débuts difficiles avec les Bleus, qui sont parvenus.
Et je pense que c'est pas ses qualités.
Et qui est convoqué là. Hein.
Je pense que c'était pas ses qualités, donc il n'avait pas fait l'Euro, mais je pense que c'était pas ses qualités qui étaient en question, c'était plutôt justement cette gestion émotionnelle. Donc c'est vrai que la gestion émotionnelle, elle est extrêmement importante. Après, il y a des nouvelles têtes. Je trouve que c'est aussi bien de régénérer un petit peu ce
groupe. On pense à Kamavinga aussi. Hein. Il est apparu pour l'instant. En club, c'était pas terrible. On imagine qu'on le reverra, mais en tout cas, c'était compliqué à gérer.
Ça dépend des postes, parce qu'il y a des postes où vous jouez moins gros que d'autres. C'est-à-dire que quand vous êtes buteur ou des choses comme ça, on va tout de suite vous juger sur il a marqué ou il a pas marqué. Bon, quand t'es latéral gauche, si tu fais 4-5 centres de bonne facture et que tu prends pas le bouillon sur ton côté, on va dire performance réussie, correcte, à revoir quoi. C'est aussi après les enjeux de poste aussi.
Parlons alors des nouveaux appelés et par exemple Moussa Diaby, formé à Paris en fait. On l'a vu jouer avec le Paris Saint-Germain.
C'est oui pour moi, Annie. Alors, simplement, le contexte, c'est que Deschamps, il est entre deux extrêmes. La première idée, il l'a dit lui-même, il l'a formulée, c'est que après une grande compétition, il y a du renouvellement. Donc, forcément, on va tenter quelques joueurs, on va appeler quelques nouveautés. Et l'autre extrême, c'est, attention, il y a quand même de l'enjeu pour les matchs. Même si l'enjeu est réduit, il existe. Mais Moussa Diaby, c'est un grand oui. Moi, ce qui peut m'inquiéter, on va pas s'inquiéter avant l'heure, mais ce qui peut m'inquiéter pour un joueur comme ça en équipe de France, c'est que c'est un joueur qui prend des risques, qui a du déchet, qui peut être brillantissime sur une heure, sur un match, sur deux matchs, mais qui peut aussi être forcément par les risques qu'il prend moins bon. Donc sur des premières sélections, il y a peut-être un enjeu pour lui, il y a peut-être quelque chose sur les épaules qui fait que vous êtes en, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes complètement libre, insouciant, vous jouez votre jeu et ça se passe super bien. Soit au contraire, vous vous dites oh là là, faut pas que je fasse trop d'erreurs, que je rate trop de dribbles. Et dans ce cas-là, vous perdez de votre spontanéité. Et donc voilà, Moussa Diaby, moi je dis oui tout de suite. Maintenant, il faudra que Deschamps ait peut-être un peu de patience avec un joueur comme ça. Et puis un autre, puisque vous parliez des quelques appelés de Bundesliga, un autre que moi j'aurais voulu voir, Annie, c'est Nordi Mukiele. Alors il y en a d'autres aussi dans ce secteur-là de la défense qui sont intéressants, mais Nordi Mukiele, c'est le regret peut-être que j'ai moi par rapport à la liste qui a été convoquée par Deschamps cette fois-ci.
Bruno Constant, on a aussi deux Italiens, entre guillemets. On a Théo Hernandez, donc, qui vient du Milan AC, de l'équipe des Rossoneri. Et puis, on a Jordan Vertu, qui, lui, vient de l'AS Roma, qui, en ce moment, travaille avec José Mourinho.
Ouais, ça fait quelques saisons qu'il est en Italie. Il est passé par la Fiorentina aussi. Et c'est quelqu'un qui, franchement, qui brille depuis maintenant deux saisons. Et qui mérite quelque part, même s'il est moins clinquant, c'est pas un grand nom, c'est pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais c'est quelqu'un qui le mérite. Alors certes, il arrive un peu tard, à 28 ans, donc lui, quelque part, il aura peu de mal, j'imagine, pour se montrer. Mais ça, moi, je trouve que c'est stratégique ce que fait Deschamps. Ça correspond à une ouverture de liste de début de saison. On est en pleine préparation, tout le monde n'est pas préparé de la même façon. Il y a des blessés, il y a aussi une manière aussi de rafraîchir, de rajeunir, de rafraîchir le groupe. Et de mettre un peu les égos de ceux qui étaient à l'Euro et qui n'ont pas brillé. Et dire, voilà, il y a la porte qui s'ouvre. Si vous n'êtes pas bon, si vous ne rebondissez pas après l'Euro, il y a des autres qui attendent derrière et qui ont le couteau entre les dents.
Il y a du monde.
Donc c'est une manière aussi de relancer un peu les cartes et de voir ce qui va se passer, si les jeunes peuvent répondre aussi à l'appel du
sélectionneur. Mais ce n'est pas une révolution.
Non, non. Voilà, moi, il n'y a jamais de révolution avec Deschamps. Hein. Jamais.
Ouais. Oui, sauf quand il rappelle Benzema, mais ça, bon, c'est une autre histoire.
Ouais. Alors un grand absent sur la liste, bon, il y a Moussa Dembélé, mais ce n'est peut-être pas vraiment
Sissoko,
à lui que je pense.
Sissoko,
pardon. Ouais. Moussa Sissoko, c'est un attaquant, je parle d'un grand 1m92, Olivier Giroud, toujours présent ces derniers temps dans le groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur invoque aujourd'hui des choix sportifs au sujet d'un joueur qui vient d'être transféré, rappelons-le, de Chelsea au Milan. Il va retrouver d'ailleurs Théo Hernandez. Mais on se souvient aussi de cette petite phrase de Olivier Giroud. C'était juste avant le début de l'Euro. Et on a l'impression que Didier Deschamps ne l'a pas oublié.
Vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver.
Oh putain.
C'était, Nabil Djellit, c'était Olivier Giroud qui, en quelques phrases, avait gâché l'ambiance, on peut dire comme ça. Thomas de Saint-Léger avait un peu gâché l'ambiance au sein du vestiaire.
Oui, une petite pique, on s'en souvient, envoyée, même si c'était pas directement...
À la fin d'un match amical avant l'Euro.
Contre la Bulgarie, sans doute à l'adresse de Kylian Mbappé. Est-ce que ça avait gâché l'ambiance ou pas? Certainement. Mais évidemment, en tout cas, l'absence de Giroud, est-ce qu'elle est liée à cette petite phrase, à la dégradation potentielle de l'ambiance qui s'en est suivie pendant l'Euro, je sais pas, Didier Deschamps. En revanche, si on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de révolution, s'il y a un choix fort à retenir de cette liste, évidemment, c'est celui-là, parce qu'il avait toujours maintenu Giroud, même au moment où il jouait pas avec Chelsea. Là, paradoxalement, il vient d'être transféré au Milan AC. Bon,
il est
simplement
en forme
début de saison. Et dans la non, peut-être pas, mais
en forme de sa carrière.
En tout cas, il commence les matchs avec le Milan AC, donc il a le temps de jeu que lui demandait d'avoir Didier Deschamps. Et il n'est pas pris. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Je pense que c'est un petit peu trop tôt, mais j'ai l'impression que la porte se referme un petit peu, même si lui dit que au cas où Giroud recommencerait à bien jouer, il pourrait revenir. Il a également parlé de son âge, etc.
Ça 34
sent,
ans.
Ça sent pas très bon quand même pour Olivier Giroud.
C'est pas totalement illogique non plus. Alors certes, ça choque parce qu'effectivement, il a repris la saison avec le Milan, il est titulaire. Il a joué combien de matchs avec le Milan? Un en championnat.
Oui, mais ils viennent de reprendre.
Et c'est aussi, et si la Coupe du Monde va arriver très vite, pour Giroud, il y a quand même 14, 15 mois, 16 mois avant cette Coupe du Monde. Donc il aura 36 ans. Il aura un peu plus de 36 ans.
Il y a 12 mois.
Donc à un moment donné, c'est aussi normal que Deschamps tourne la page sur certains postes.
Chose.
Moi, ça ne me choque pas que Giroud ne soit pas à la Coupe du Monde. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi renouveler l'effectif. Il y aura Benzema déjà qui aura quel âge? 34, 35, 35, 36 35,
34,
quelque chose comme ça.
Ouais,
il ne peut pas emmener non plus tous les trentenaires qui ont 35 ans.
Et puis Giroud, c'était avant l'Euro, une équipe qui était aussi un petit peu construite, j'allais pas dire autour de lui parce que c'était pas le maillon fort, mais une animation offensive qui dépendait de lui. Ouais, beaucoup, c'est pas un joueur qu'on fait rentrer en fin de rencontre comme joker.
Exactement.
Donc voilà.
Ouais. Nabil, est-ce que vous pensez que... Parce qu'on se souvient de l'interview qu'a donné très récemment Deschamps dans le journal L'Équipe où il fait allusion quand même à ce petit épisode en disant il n'aurait pas dû dire ça.
Ouais, moi, là où moi je ne suis pas un grand supporter du style d'Olivier Giroud, je ne m'en suis jamais caché, mais je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude à son égard là, dans cette situation, dans le sens où dans cette interview, il y a eu des problèmes à l'Euro. Avec voilà, plusieurs séquences, plusieurs noyaux de problèmes. Et le seul qui a ramassé, c'est Olivier Giroud dans cette histoire.
Il parle de Pogba quand même.
Dans l'interview ?
Mmh. Oui.
Bah, Pogba, il est quand même là. Il n'est pas écarté, il n'est pas mis à l'écart. Mais Olivier Giroud, lui, il paye la facture directe. Mmh. Enfin, c'est comme ça que
sa faute était notable et publique. Ouais. C'est qu'il y a une déclaration. Non, mais sur donc le Deschamps fond, pouvait réagir à cette déclaration.
Sur le fond, il avait peut-être pas totalement tort, Olivier Giroud, mais enfin, évidemment. Que c'est pas quelque chose qu'on dit en public ou qu'on manifeste en public parce que voilà, ça crée la zizanie dans le groupe. Pour moi, il a commis le crime de lèse-majesté. Il s'en est pris à la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui est là pour 10 ans. Terminé. Je veux dire, c'est politique. À un moment, faut être honnête. Je veux dire, ils peuvent plus être dans le même vestiaire. Je veux dire, ce qui s'est passé, ça a brisé quelque chose, voilà.
Ouais, qui avait été créé autour de l'équipe de France après, de 2018.
Après,
Giroud,
il a bon après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a toujours globalement fait le taf. Moi, je n'étais pas particulièrement fan du joueur, mais peut-être aussi que son départ, ça valide. Il y a Benzema qui est revenu, donc ça, c'est forcément, c'est lié. Benzema, il prend la place. Et bon, c'est normal, c'est logique. C'est un joueur individuellement plus fort. Mais est-ce que c'est pas aussi, et c'est là où on peut attendre Didier Deschamps, aussi un changement de logiciel de jeu totalement assumé, avec peut-être plus de vitesse et plus d'avoir d'alternative avec un joueur de surface. Est-ce que c'est pas aussi ça, quoi?
David Lortolari, il lui ferme pas tout à fait la porte. Hein. Il dit c'est un choix sportif du moment. Est-ce que pour vous, malgré tout, c'est une page qui se tourne?
Les arguments étaient très 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 bons là, des deux là. Non, moi il y a
des
deux
trois,
des trois même. Oui, exactement. Il y a quelque chose moi que je voudrais simplement redire. La première, c'est que il y a pas le profil de Giroud. Alors évidemment, Benzema est supérieur dans plein de domaines, Nabil a bien raison.
Mais Mbappé peut prendre l'axe aussi. Aujourd'hui. C'est ce qu'il va faire au Real, paraît-il.
On n'est pas non plus obligé d'avoir un groupe avec forcément le profil de Giroud.
Bien sûr, mais par ailleurs, autre point, en contrepoint justement de ça, il a été franc peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, en public par rapport...
Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Quoi.
Est-ce qu'on ne peut pas pour autant pardonner? Est-ce que deux attaquants avec un égo ne peuvent pas discuter?
Oui, mais on sait pas non plus si Giroud est pas appelé à cause de cette phrase. Il faut.
Dans l'interview, il dit c'est en réflexion quand même.
Non, mais
dans l'interview de l'équipe, il dit clairement c'est en réflexion et il a tendance à minimiser ce qu'il faisait très bien avant. Genre, il met deux buts contre la Bulgarie. Ah, vous avez vu, vous dites qu'il faut pas l'appeler, mais il continue à marquer. Subitement, ses buts en fin de match face à la Bulgarie, ça comptait plus que pour du beurre. En revanche, il mettait en avant le fait qu'il jouait pas en club, ce qui a toujours été son histoire.
Annie, la question qui va se poser, c'est si Giroud fait une saison pleine à 25 buts en championnat, là, il va pouvoir légitimement...
Ça sera un choix sportif, alors, à ce moment-là. Voilà. En tout cas, quelle trace a laissé l'Euro raté de ce groupe, dans ce groupe? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a aussi des problèmes entre joueurs? Une question lui a été posée à un Thomas Saint-Léger sur est-ce qu'il fait rentrer un nouveau leader dans le groupe? C'est un peu ça?
Non, oui, un petit peu. La question était, est-ce que vous allez construire ce nouveau groupe avec l'objectif, évidemment, de la Coupe du Monde 2022? Il faut d'abord se qualifier, bien sûr. En essayant de faire émerger des leaders, le journaliste, dans sa question, semblant dire qu'il n'y en avait pas eu pendant l'Euro. Voilà,
alors la réponse de Didier Deschamps.
S'il y a bien quelque chose dont je ne vais pas me plaindre, c'est d'avoir des leaders et des cadres qui ont joué leur rôle et qui ont toujours joué leur rôle. Qu'il y en ait des nouveaux qui puissent émerger, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a toujours une ossature de joueurs qui ont une expérience et un vécu qui sont indispensables au haut niveau pour assumer ce rôle de leader. Après, dans le leadership, il y a différentes formes de leaders. Il y en a qui sont plus expressifs, il y a des leaders techniques, il y a des leaders physiques aussi. De ce côté-là, il n'y a pas de manque, de mon côté en tous les cas.
Thomas, il n'y a pas de manque pour vous de leader dans cette équipe de France que vous allez observer là pendant les trois matchs qu'elle va délivrer pour les qualifications?
Dur à dire. J'ai du mal à trouver l'âme de cette équipe, l'âme qu'elle avait eue en 2018.
L'âme, c'était au Bayern, on peut en parler avec David.
Ouais, et puis c'était Deschamps pour la France, là, jusqu'à ce dernier tournoi. Et maintenant, ça allait peut-être un peu moins.
Moi, je pense que quelque chose s'est cassé pendant l'Euro, oui. Et je pense que c'est pas en écartant Giroud, oui, qui était déjà au bord de la piscine, que ça va changer quelque chose. Quoi.
Absolument.
Donc, quels nouveaux leaders peuvent émerger? Franchement, je vois pas d'autres leaders que ceux qui sont déjà là.
Est-ce qu'il en faut des nouveaux leaders? Il n'y a pas besoin de nouveaux leaders. Ce qu'il faut, c'est un peu plus d'ordre dans le vestiaire et d'harmonie sur le plan de jeu, sur les envies des uns et des autres.
Bon, Lloris, c'est quand même un leader.
Lloris est un leader, Varane est un leader.
Enfin, le leader, c'était Deschamps.
Oui, c'est ça.
Lucas Hernandez est un leader à sa manière de guerrier sur le terrain, etc. Pogba en est un, prend un peu plus de place de plus en plus à chaque tournoi.
Ouais,
et Benzema, qui est arrivé vraiment sur la fin, en est quelque part un aussi. Si Benzema n'est pas un leader avec la carrière qu'il fait au Real. Donc il y a beaucoup de leaders, beaucoup d'ego aussi. Mbappé aussi. Pas leader, mais ego aussi. Donc c'est l'harmonie qu'il faut recréer en fait. C'est pas tellement un nouveau leader.
Enfin, le leader pour moi, ça a quand même toujours été Didier Deschamps.
Jusqu'en 2021.
Moi, à l'Euro, là, j'ai vu quand même son autorité qui s'est effritée. Son management qui a été remis en question en cours de match en Mondo Vision. Son management également qui a été décrié au sein du groupe, ce qu'on n'avait jamais entendu, notamment celui de délaisser complètement les 13 remplaçants. Et s'occuper que des 13 qui jouaient. Donc ça aussi, c'est lui aussi qui doit, à mon sens, se remettre en question et reprendre le lead. Alors attention, évidemment, on sait tous que voilà ce qu'il a réalisé, ça remet pas en question quoi que ce soit. Mais un joueur qui refuse de sortir, un autre qui vous explique que la tactique c'est comme ça ou pas comme ça, quand ça arrive dans d'autres sélections, on dit que c'est le bordel. Là, c'était en équipe de France.
Deschamps, en préambule de sa conférence de presse, a eu un petit mot introductif et c'est assez rare. Il a expliqué qu'il était revenu à un groupe de 23 joueurs et non de 25 ou 26, je sais plus, pendant l'Euro. Parce que ça devenait trop compliqué à gérer par rapport à ce que disait Nabil, les plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ceux qui se retrouvaient en tribune, qu'émotionnellement c'était trop dur pour eux et trop dur de les maintenir concernés aussi dans la compétition.
Et c'est pas le seul sélectionneur à s'être plaint de ça. Et d'ailleurs, je crois, en Espagne, ils avaient mis que 24 joueurs un peu à cause de ça aussi.
Quand ils les mettent en tribune, 26, c'est déjà presque une punition. Beaucoup
trop.
C'est
et puis qu'ils fassent jouer certains joueurs à leur poste, parce que là, trop de polyvalence tue la polyvalence. Ouais. Entre Tolisso en haut à droite, Rabiot latéral gauche, tactiquement, c'était pas ce qui a été le plus réussi. Quoi.
David, pour terminer.
Non, encore une fois, je redis ce que je viens de dire, Annie, tous les bons arguments ont été exposés. Non, simplement, sur Deschamps...
Non, vous avez toujours des arguments, David.
Sur Deschamps et son leadership, on peut imaginer aussi que ça a été son choix par rapport à la carrure de certains comme Mbappé. Ça a été son choix, peut-être, au moment de ce dernier tournoi, de laisser un peu plus d'autonomie aux joueurs. Il l'a payé. Saura-t-il récupérer la main? Ça, j'en suis pas sûr du tout, Annie.
Et puis la question de Griezmann également. Est-ce que Benzema et Mbappé vont prendre le lead définitivement?
On verra ça. Thomas de Saint-Léger, il y aura donc 3 matchs successivement. 1er, 4 et 7 septembre.
Bosnie, Ukraine, Finlande.
Voilà. Deux en France, en fait. Hein, un à Strasbourg, un à Lyon. Et puis celui en Ukraine. Ouais. Exactement. Mais c'est un peu fou, d'ailleurs, ce calendrier de l'équipe de France. Parce qu'en septembre, c'est ça, 3 matchs. En octobre, il y aura le tournoi final de la Ligue des Nations, où la France est finaliste. Et après, en novembre, on recommence sur encore 2 matchs.
Ouais, c'est-à-dire que cette Coupe du Monde 2022, elle arrive très vite aussi.
Elle arrive
et
très vite.
Et que la Ligue des Nations a pris de plus en plus de place. Donc,
et qu'il y a eu du retard aussi dans les journées qualificatives qui ont commencé en mars dernier. On continue dans cette émission. On va parler, c'est pas tout à fait de football, mais autour du football. La Ligue professionnelle de football semble prendre son temps, on l'imaginait, on en a eu confirmation. Sa commission de discipline réunie hier, 3 jours après le chaos du stade niçois, c'est pour ça que je faisais... Parce que, évidemment, on parle pas de football, on parle de ce qui se passe autour. Et lors de ce Nice-OM, ce chaos, ces violences, et donc les premières sanctions sont tombées, mais vraiment petites premières. Le reste suivra dans 2 semaines seulement, et ça sera le 8 septembre. Alors pour l'instant... 8 clos total pour Nice-Bordeaux samedi, prochain match à domicile des Aiglons. On savait déjà que le préfet des Alpes-Maritimes avait, lui, suspendu, et ça c'est pour 4 matchs, la tribune des Ultras, d'où sont venus les problèmes. Et puis, un homme a été sanctionné, le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, suspendu de toute activité pour l'instant. En gros, ça fait 1-1. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce qu'il adviendra des autres sanctions, du résultat du match et tout, on ne sait rien. Mais est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que ça vous paraît sévère? Allez, David Lortolari, est-ce que finalement, ça... Comment vous les ressentez, ces premières décisions?
Ben, tout est dans la, justement cette formulation. Ni première décision, il y a une suite. Il y a des décisions qui vont être prises sportives, administratives, juridiques, judiciaires, qui sont susceptibles d'être prises derrière. Ça fait un petit peu fade. Après, tout a été dit sur les torts partagés, sur les réactions épidermiques, sur le fait de devoir se contrôler lorsqu'on est un personnage public, etc. La sensation instinctive, Annie, que j'ai, c'est que c'est peut-être un peu court, tout ça. Maintenant,
vous attendez plus.
Oui, enfin, alors
il y aura plus de toute façon.
Oui, exactement. C'est pour ça que je
dis. Là, bon, ils ont pas pris de décision à chaud parce qu'il y a des instructions qui sont en cours,
exactement.
Des éléments également à vérifier, peut-être des acteurs à entendre. Mm-hmm. Bon, bah, ils ont fait le minimum syndical. En revanche, quand ça va tomber, à mon avis, ça va tomber.
Vous pensez ?
Ah, je pense que ça va tomber. C'est comme ça que je le vois. Ce qui s'est passé est grave.
Non, mais parce qu'on a déjà été déçus quand même par les sanctions. Et là, vu notamment que c'est une ligue, un championnat qui maintenant sera un peu plus sous les projecteurs avec la présence
beaucoup
de Messi,
plus.
Neymar et tout. Oui, on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait un électrochoc, non, Bruno ?
Moi, j'espère que ce sera un tournant, en fait. J'espère que ce sera vraiment un tournant et au-delà du sportif et des ligues, des instances, que ça aille même au niveau politique. On réclame de plus en plus le bannissement de certains supporters à vie, ou pour un an, ou pour deux ans, ou pour cinq ans, pour dix ans, comme en Angleterre, parce que c'est ce qui marche, c'est le plus efficace. Et qu'à un moment donné, déjà, la gestion de ce match...
C'est la Ligue ou c'est la justice, ça ?
Ben là, pour le coup, ça va au-delà. En France, on ne peut pas interdire à vie un supporter de venir au stade. Mmh. Il faut que ça passe par une loi. Donc là, il faut que les politiques s'organisent pour qu'il y ait une loi qui passe, pour qu'on intervienne.
Les politiques, ils sont envoyés la balle entre élus... Marseillais et lui,
c'est un fiasco, une catastrophe la gestion de cet événement. C'est terrible.
Chacun gère ça.
Et on parle du championnat qui est de plus en plus vu. C'est le cas en Angleterre, évidemment, les images ont tourné. Ça a choqué
Espagne
tout le monde.
Aussi, alors en Allemagne,
il y a des matchs aujourd'hui. Donc le PSG, le Reims PSG va être diffusé en direct à la télévision espagnole. Aujourd'hui, beaucoup de monde regarde la France. Grâce à Messi, grâce à tout ça. Et là, c'est une publicité épouvantable au championnat de France.
En tout cas, on va écouter les réactions des deux entraîneurs de ce club qui ont pris la parole aujourd'hui. Et vous allez entendre, c'est quand même assez intéressant parce que d'une manière générale, ils sont assez honnêtes. Mais en plus, ils regardent clairement, ils appellent un peu au calme. Écoutons d'abord l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier.
On peut être marqué par ce qui s'est passé. Maintenant, il faut regarder devant. Le football doit rester un spectacle et le stade doit rester une salle de spectacle. Le sport doit vite reprendre le jeu. Il y a des gens qui vont décider, qui vont sanctionner après une enquête et que on ne peut pas sanctionner de manière radicale. De manière radicale, il aura sa sanction et je crois qu'il est lui le premier, j'en suis sûr, parce que quand on est éducateur, évidemment, après ne pas avoir su se maîtriser, je suis sûr qu'il est malheureux.
Appel au calme et appel aussi à ne pas en faire un bouc émissaire de ce préparateur physique de l'OM qui s'était énervé, évidemment, sous les caméras. À Marseille, où les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement au Vélodrome pour le match OM-Saint-Etienne samedi prochain, eh bien Jorge Sampaoli a tenu à commenter les incidents. C'était la première fois de son côté. Et c'était assez loin du personnage volcanique qu'on a l'habitude de voir sur le bord du terrain.
Dimanche, à Nice, nous avons eu peur. Les supporters adverses ont attaqué nos joueurs et la sécurité a laissé faire. Certains dirigeants et joueurs de Nice, non seulement n'ont pas condamné ces actes, mais ils les ont applaudis. Nous sommes entrés sur le terrain pour défendre nos joueurs parce que personne ne nous défendait. Nous étions seuls. Le football est regardé par beaucoup d'enfants, les miens par exemple, et je n'aime pas qu'ils assistent à un tel spectacle. Le football est un jeu qui suscite beaucoup de passion, mais ça ne doit pas aller plus loin. Et je voudrais m'excuser auprès des enfants. Et je demande à nos supporters qui assisteront au match samedi de ne pas chercher à se venger de quoi que ce soit.
Il est temps peut-être d'appeler au calme David Lortolari.
Oui, alors...
C'est un peu tard.
Oui, Bruno, tout à fait, parce que bon, j'écoutais encore les éditorialistes là ces dernières heures un peu dans les pays aussi autour. Il y a qu'en France qu'on ne sait pas que il peut y avoir aussi une étincelle sur la rivalité en Allemagne. Ils appellent ça la Côte d'Azur, enfin entre la Provence et Nice, entre donc c'est aussi.
On appelle ça le derby de la Méditerranée, comme ça on a simplifié.
Non, mais il y a besoin d'un peu de surveillance, il y a besoin d'un peu d'encadrement. Et là. Encore une fois, quand on voit les images, quand on voit l'envahissement du terrain,
il y a besoin de meilleurs arbitres. Parce que le premier fautif dans l'histoire.
Oui, certainement.
Il y a les supporters, c'est niçois, mais il y a aussi l'arbitre.
Oui, certainement.
Si l'arbitre, il arrête le match au bout d'une demi-heure parce qu'il y a des jets de bouteilles et qu'il ramène tout le monde.
Déjà, quand les joueurs s'entraînaient, il y avait des jets de bouteilles.
Exactement.
Ça veut dire que c'était même avant.
C'est pas le monopole du Stade de Nice, les jets de bouteilles. C'est quelque chose. C'est pour ça que Bruno a totalement raison. Il faut qu'il y ait jurisprudence. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est un match qui a été mal tenu, qui a dégénéré avec un climat sulfureux. Mais dans d'autres stades français, c'est quelque chose qu'on voit récemment. Neymar, quand il va tirer des corners, on est obligé de mettre des CRS avec des boucliers, quoi.
Bah là, c'est un peu pareil.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, je pense qu'il faut un peu de hauteur. Il faut aussi que Vincent Labrune, le président de la Ligue, prenne aussi, lui, un peu de hauteur et que ça devienne quelque chose, une décision politique forte qui envoie un signal et qu'on ne mette pas en avant ces querelles d'épiciers entre des élus d'une région contre une élue de région qui font du populisme et du petit jeu électoraliste
pour des fins électoralistes.
Et puis il faudra pas venir pleurer, il faudra évidemment pleurer, mais si un jour c'est beaucoup plus grave et qu'il y a des blessés et etc, ces gens-là ils n'auront pas de responsabilité.
On a l'impression qu'on attend que ça pour toujours faire quelque chose, quoi. C'est dingue.
David Lortolari, quand on parle de retrait de points, est-ce que vous y croyez? Est-ce que par exemple, parce que là dans une des décisions qu'on attend de la LFP, c'est aussi qu'est-ce qui va advenir de ce match? Est-ce qu'ils vont renvoyer tout le monde dos à dos, un peu comme ils l'ont fait là? On va rejouer ce match en terrain neutre, peut-être huis clos et tout ça? Ou est-ce qu'il faut dire, je sais pas, chacun perd des points ou...
Tout ça est possible, tout ça sous différentes formes a déjà été fait dans différents championnats. On a déjà vu des équipes démarrer avec 10 points de pénalité, alors dans des contextes complètement différents. Hein. Ça peut être financier, ça peut être pour d'autres raisons. À Nice, c'est faisable, c'est possible. Simplement, par rapport à ce qu'on disait sur le contexte régional et tout à l'heure, il y a, il me semble-t-il, un derby chaud sur lequel on a pris des mesures assez franches sur les 10-15 dernières années qui ont été plutôt suivies des faits, même si je dis ça en marchant sur des œufs, c'est Lyon-Saint-Etienne. Alors parfois, ça a obligé à empêcher complètement les supporters de faire les 45 km entre les deux. Années. Parfois, ça a été surveillé de très très près, je l'ai vécu moi aussi en étant présent sur le terrain à ce moment-là, de surveiller de très très près le déplacement de l'équipe adverse qui venait dans le stade adverse. Il y a en tout cas des choses à faire, et mes camarades ont raison, il faut agir.
Le plus grave dans cette histoire, c'est quand même quand il y a des déclarations de pères de famille qui étaient au match et qui disent qu'ils sont avec leurs enfants et qui disent « moi, je ne vais plus revenir au stade, ça ne sert à rien, je ne vais pas emmener mon gamin dans un foutoir pareil ». C'est ça le plus grave.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs que Jorge Sampaoli là demandait pardon aux enfants et même aux siens d'ailleurs.
On lui a certainement rappelé que son rôle c'était aussi celui d'un éducateur et qu'au sein de l'Olympique de Marseille, il y a des U15, des U13, des U17 et que les gamins, les parents de gamins vont voir l'entraîneur de l'équipe A vouloir aller se taper, excusez-moi l'expression. C'est pas que c'est triste, c'est qu'on marche sur la tête et que c'est irresponsable, tout simplement.
Totalement. Mais on en a finalement des derbies quand même qui sont toujours sur la tangente. Hein.
Il faut garder quand même ce côté populaire, cette passion, cette ferveur.
Mais la passion, aujourd'hui, c'est pas la violence.
Voilà, la passion, c'est supporter, c'est avoir des tifos magnifiques comme ça arrive parfois au Vélodrome ou ailleurs. Donc il faut que ça reste un spectacle. Et il faut pas avoir de sentiment d'insécurité. Faut pas avoir le sentiment d'avoir peur ou sentir qu'il peut nous arriver quelque chose. Je sais pas, quand vous allez à un concert, vous dites pas que je vais m'entrer dans une bagarre, quoi.
Mais surtout, la passion, il peut y avoir de la passion dans le foot. On le voit en Allemagne, qui est un des plus bel exemples. On le voit en Angleterre encore aujourd'hui.
C'est un spectacle
familial. La passion, elle est possible. La passion, c'est pas synonyme de sauvages qui vont pour balancer les bouteilles.
Surtout pas. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé cette première partie. Nous nous retrouverons plus tard dans la soirée pour évoquer le tirage au sort de la Ligue des Champions. On se retrouvera donc tout à l'heure dans une deuxième édition. Onde de choc.